Bible et théologie. Dans ce mois de janvier, nous avons commencé la semaine dernière un itinéraire au travers de la grande prière chrétienne donnée par Jésus, le Notre Père, avec le pasteur Louis Pernaud, qui est toujours là, fidèle au poste. Louis Pernaud, bonjour.
Bonjour.
Qui a donc publié un livre qui s'appelle Le Notre Père aux éditions de Paris et qui nous aide donc à essayer de comprendre des demandes qui sont parfois considérées comme simples et qui sont finalement beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Nous avons dit la semaine dernière, il y a un plan, il y a une entrée, une sortie, si j'ose dire, puis il y a trois demandes célestes qui sont du côté de Dieu et quatre demandes matérielles du côté de l'homme. Ce sont ces trois premières demandes dans lesquelles nous allons entrer aujourd'hui. La première, c'est que ton nom soit sanctifié. Ça n'est pas si simple. D'abord, je vais peut-être commencer par la fin, Louis Pernaud. Sanctifié, ça veut dire quoi ?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est une demande, j'aurais les moins dangereuses, parce que sanctifier le nom de Dieu, c'est tout ça, a l'air très sympathique. Mais c'est une des demandes qui est certainement les moins bien comprises. Que demandons-nous exactement quand on dit que ton nom soit sanctifié ? On imagine que sanctifier, ça veut dire rendre saint. Mais comment pourrions-nous, nous, rendre saint le nom de Dieu, qui est par définition ce qui est le plus saint de ce qui existe ?
Oui, mais saint, ça veut dire quoi ?
Alors, justement, là, on est induit dans le contresens par la tradition chrétienne médiévale qui veut nous faire dire que les saints, ce sont ceux qui sont parfaits. Et donc on dit un saint, c'est quelqu'un qui n'a aucun défaut. Or Dieu n'a évidemment aucun défaut et Dieu est évidemment parfait. Et donc ce n'est pas dans ce sens-là. Saint dans la Bible ne veut pas dire parfait. Saint dans la Bible, ça veut dire à part, différent du reste, ou que l'on met à part pour le consacrer à Dieu. Donc saint peut avoir aussi un sens un peu de sacré, en quelque sorte, quelque chose que l'on met à part, que l'on réserve pour Dieu et qui n'est pas comme le reste. En ce sens, les saints, dans l'Apocalypse par exemple, ou dans les épîtres de Paul, ne sont pas du tout les chrétiens qui seraient parfaits, mais les chrétiens sont eux-mêmes saints, parce que être chrétien, c'est se démarquer du monde matériel et athée, en quelque sorte.
Est-ce que je peux faire juste une petite remarque ? C'est tellement vrai que si on lit la première lettre, la première épître de l'apôtre Paul aux gens de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, il va... j'allais être impoli, il va les secouer, il va leur dire des choses, quelquefois que ça va pas chez eux, qu'il y a du désordre, que quand ils célèbrent la scène, c'est pas comme ça qu'il faut faire, donc il leur fait des reproches. Or, il ouvre sa lettre en disant, Paul, apôtre Jésus-Christ, écrit aux saints qui sont à Corinthe. Voilà. Donc il va les secouer, et il les appelle saints quand même, parce qu'ils ont été mis à part, par leur baptême en particulier, ils ont été mis à part. Donc, saint, Dieu, évidemment, est à part de tout le monde, quoi. Il est le premier, le centre, la première place.
Évidemment, et Dieu est de toute façon le saint des saints, enfin il est le plus saint, il est par définition ce qui est différent du reste, il est le tout autre. Dieu n'est pas matériel, Dieu il est au ciel, comme nous l'avons dit la dernière fois, donc Dieu est saint. Et du coup, on comprend un petit peu déjà comment fonctionnent ces trois demandes célestes. C'est quand on dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas que Dieu sanctifie lui-même son nom qui est déjà saint, mais on comprend plutôt que c'est à nous de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire non pas de le rendre saint, mais de savoir le considérer comme saint.
C'est-à-dire que quand on dit que ton nom est sanctifié, ça veut dire je suis partie prenante, je m'engage dans la sanctification du nom de Dieu.
Oui, c'est-à-dire, alors là, on peut le comprendre de deux manières. D'abord, on peut partir de ce qu'est le nom. Alors en effet, on a dit souvent, et c'est vrai, que dans la tradition biblique, le nom, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire que le nom représente ce qu'est la personne. Jésus s'appelle Yeshua, Dieu sauve, et il est le sauveur. Bon, donc tout ça est très cohérent. Et donc le nom de Dieu, c'est Dieu.
Oui, puisque ce qui n'a pas de nom dans la Bible, ça n'existe pas.
Voilà.
À partir du moment où on peut le nommer, il existe.
C'est ça. Mais en même temps, le nom, c'est aussi le nom que je donne à une réalité qui existe. Et donc Dieu existe, même si je ne le nomme pas. Mais le nom, c'est l'idée que je me fais de Dieu. Et il faut que cette idée que je me fais de Dieu soit sainte. C'est-à-dire que je ne me fasse pas une idée banale de Dieu. Et autrement dit, que ma relation à Dieu soit quelque chose de particulier. Alors là, on pourrait approcher la question à partir du concept de foi tel que l'a défini un théologien que j'aime beaucoup, qui est Paul Tillich. Paul Tillich dit « La foi, c'est la préoccupation ultime. » C'est-à-dire, il dit « Nous avons tous des préoccupations dans notre vie. » Et nous nous soucions de notre santé, de notre longévité, de nos enfants, de nos vacances, de notre voiture. Et parmi tout cela, nous nous préoccupons aussi de Dieu. Et donc la préoccupation spirituelle est une des préoccupations parmi d'autres. Et ce que dit notre Père, c'est qu'il faudrait que cette préoccupation du spirituel ne soit pas une préoccupation parmi d'autres, mais soit une préoccupation à part. Alors là, c'est très beau comme idée, parce qu'il y a aussi d'autres religieux qui ont voulu nous faire croire que notre seule préoccupation devrait être la préoccupation du spirituel, et que toute autre préoccupation serait de l'ordre du péché. Ce n'est pas ce que dit notre Père. Nous pouvons, et ce n'est pas un péché, de se préoccuper de bien manger à midi, d'être heureux, de bien faire l'amour, d'avoir un bon métier, de se faire plaisir, d'aller en vacances ou d'avoir un bon travail. Ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait en plus une préoccupation spirituelle dans nos vies. Et par ailleurs, que la préoccupation spirituelle ne soit pas une préoccupation parmi d'autres, comme si je me souciais de mes vacances, de mon travail, de Dieu, de mes enfants, de mes loisirs, et tout ça mélangé, mais que la préoccupation spirituelle soit à part. C'est-à-dire qu'elle ait un rôle particulier dans ma vie, peut-être un rôle qui permet aussi de donner du sens aux autres préoccupations. Et donc sanctifier le nom de Dieu, c'est mettre à part cette préoccupation du spirituel pour lui donner non pas la seule place, mais une place qui permet d'organiser, d'orienter et de donner sens à toutes les autres préoccupations qui ne sont pas du même ordre.
Oui, si j'ai bien compris, ça veut dire que Dieu reste, que d'un côté, Dieu reste le maître du monde, de ma vie, de nous tous, et en même temps que cette préoccupation dont vous parlez soit aussi la maîtresse de toutes les autres, celle qui inspire
voilà.
La manière dont je vais vivre en relation dans ma famille ou avec mes collègues de travail ou autres, que la présence de Dieu soit inspiratrice de mes décisions, de mes paroles et de mes actes.
C'est ça. Alors j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le sens de cette demande, parce que l'idée de sanctifier quelque chose se trouve en particulier dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, quand il est dit « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier » à propos du sabbat.
Pour le mettre à part.
Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que moi, dans mon enfance, quand mon père allait au culte, il disait « Je vais me sanctifier ». C'est-à-dire « Je vais au culte » ou alors « Je sanctifie dimanche en allant au culte ». Mais en fait, effectivement, sanctifier le jour du Seigneur, ça ne veut pas dire forcément aller au culte, mais ça veut dire le mettre à part. C'est-à-dire que dans la semaine, il y a 7 jours, il y en a 6 qui servent à faire du travail ou différentes activités. Et il faut qu'il y ait une journée que l'on met à part et que l'on consacre à quelque chose de particulier qui donne sens aux autres jours. Aujourd'hui, nous ne le comprenons pas d'une façon aussi stricte, mais nous pensons qu'il est bon, néanmoins, de trouver l'esprit de ce commandement et de dire qu'il faut que dans le temps dont nous disposons, il y ait chaque fois un temps que nous mettions à part. Et mettre à part un temps, ça veut dire le sanctifier, c'est la même chose. Le mettre à part pour qu'il y ait un temps qui a un sens particulier, qui permette justement la recherche de sens et la quête de Dieu, et que dans ce temps que nous mettons à part pour Dieu, nous arrivons à redonner du sens à tous les autres temps de notre semaine.
Que ton règne vienne. Alors là, on entre dans quelque chose de très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire, le règne de Dieu? Moi, si je comprends bien, ça veut dire la vision d'une transformation du monde, d'une nouvelle création, comme dit le Nouveau Testament, que tout cela se développe.
Alors là, c'est compliqué, parce que la notion de royaume de Dieu dans l'esprit des gens peut être des tas de choses très différentes. Et du coup, d'ailleurs, cette demande est comprise par les chrétiens de manière très différente. Certains envisagent le royaume de Dieu comme une réalité post-apocalyptique.
Mais c'est dans le futur, c'est dans le lointain.
Voilà, c'est dans le lointain. Un jour, Jésus va revenir, ça s'appelle la parousie, là il y aura une apocalypse, et le royaume de Dieu va nous dégringoler dessus, en quelque sorte, ce sera la fin du monde. Bon, et alors certains le vivent comme ça, et d'ailleurs, un plus grand nombre de chrétiens qu'on ne pense, hein, quand on voit tous ces chants modernes que l'on chante parfois dans les églises en disant « Jésus revient, il reviendra marcher sur nos chemins », etc. Ça, c'est une vision qu'on appelle millénariste du christianisme, qui présente effectivement la vie chrétienne comme l'attente du retour du Christ, qui sera équivalent avec la révélation du royaume de Dieu qui nous sera imposé en quelque sorte, ou qui nous sera proposé, donné. Bon, ça, c'est une vision des choses. Et du coup, dans cette théologie-là, qui n'est pas la mienne, hein, vous allez le voir, eh bien, la demande serait de dire à Dieu, hâte-toi. Et nous sommes dans un monde de souffrance, d'imperfection, de guerre et de trous d'ozone. Dépêche-toi de faire revenir ton fils Jésus-Christ pour que tout ce mal disparaisse et que enfin ton règne vienne. Bon, cette demande ne me plaît pas du tout, pour tout vous dire, et moi je n'ai pas, enfin, à tort ou à raison, mais en tout cas je n'ai pas l'idée que l'Apocalypse soit un événement historique qui viendra d'une manière datée, dans un endroit géographique donné. Mais je crois que l'Apocalypse, c'est la révélation de Dieu, et que Dieu se révèle à chaque génération, dans le cœur de chacun. Et quant au retour du Christ, je n'attends pas, moi, le retour du Christ à une date donnée, mais je crois que le retour du Christ est quelque chose qui doit s'effectuer dans la vie de chacun, et même tous les jours. C'est-à-dire que Jésus est venu sur terre, il est né à Noël, que nous avons fêté il y a quelque temps, et il faut encore que Jésus naisse dans nos cœurs. Et c'est ça le retour du Christ. Il ne suffit pas que Jésus soit né historiquement à Bethléem ou ailleurs, mais il faut qu'il revienne dans nos vies pour établir en nous un nouveau royaume qui est de l'ordre du spirituel.
C'est-à-dire que c'est un peu comme on disait la semaine dernière à propos de, du Père qui est le Créateur. La création continue, il continue, Dieu continue à agir. Donc le royaume, c'est quelque chose qui aussi se développe. D'ailleurs, Jésus disait, le royaume est au-dedans de vous. Le royaume, il est déjà commencé, hein, même s'il n'est pas arrivé à sa plénitude. Et alors, moi, j'aime bien cette image parce que d'un côté, je me dis, voilà, le royaume avance. Et de l'autre côté, Jésus revient. C'est-à-dire que, mais il est déjà en train de revenir. Il est déjà là. Donc, les deux bouts se rejoignent. Et là encore, quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que nous, ça nous concerne, ça nous engage.
Oui, alors c'est vrai que ça, du coup, c'est une autre vision possible du royaume de Dieu, qui est celle qui me semble la plus intéressante et la plus mobilisante, c'est-à-dire un royaume de Dieu qui dépend un peu de moi, en quelque sorte. Alors, il y a d'abord une autre lecture, mais je la passe sous silence. Certains imaginent le royaume de Dieu comme étant l'après-mort.
Hein, et l'au-delà.
Et l'au-delà, donc les gens, dans le royaume, nous nous retrouverons, ou je retrouverai mon mari ou ma femme quand on est veuf ou veuve. Bon, ça, c'est évidemment faux. On ne va pas demander dans notre Père de nous tuer pour qu'on puisse être dans son règne. Donc, effectivement, théologiquement, et ça, c'est très important de le dire, c'est souvent méconnu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une réalité totalement future pour un après-apocalypse. Le royaume de Dieu n'est pas réservé à l'après-mort, mais le royaume de Dieu, il commence dès à présent. Et nous avons déjà un pied dedans. Donc le royaume de Dieu, c'est une réalité qui nous est déjà donnée et à laquelle nous pouvons participer de notre vivant. Ça, alors, peut-être pas d'une façon totale, parce que si Dieu régnait entièrement sur le monde aujourd'hui, eh bien, ce serait le règne de l'amour, du pardon et de la paix. Or, le monde est aujourd'hui déchiré, en quelque sorte. Il y a le règne de l'amour, du pardon et de la paix, et il y a aussi, dans ce monde, le règne de l'égoïsme, de la violence et de la jalousie. Et donc, le règne de Dieu, il n'y a qu'un mot en grec hein, pour dire règne et royaume, hein, c'est le même mot. Le règne de Dieu ou le royaume de Dieu est quelque chose qui est en partie présent aujourd'hui et qui n'est pas entièrement accompli. Et ce que nous demandons à Dieu, c'est que ce règne puisse grandir, puisse progresser. C'est-à-dire que ce monde puisse être de plus en plus dans un royaume de paix, d'amour, de tolérance, de bonheur et de partage. Et que le royaume ou que le règne de la violence et de l'égoïsme recule.
Oui, c'est-à-dire que vous dites souvent, ça aussi c'est du domaine des valeurs spirituelles. Qui sont des valeurs éternelles, alors que les valeurs matérielles sont amenées à s'étioler et à disparaître. Et là, on est dans ce qui avance vers l'éternel.
Alors, on peut effectivement l'entendre comme ça, et ça, on peut reprendre le langage des biologistes ou des scientifiques qui disent il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal. Et on pourrait dire, il y a ensuite un autre règne au-dessus de ça, qui est le règne spirituel. Et il faut que ce règne spirituel advienne, parce que nous ne sommes pas des bêtes, tout simplement.
Alors, je vais me permettre de vous citer Louis Pernault, à propos, effectivement, de cette demande que ton règne vienne. Vous écrivez, « Il ne s'agit donc ni de demander à Dieu qu'il fasse tout, ni de se couper de lui ou de penser qu'il n'aurait aucun rôle. » Là-dedans, au contraire, en lui disant que ton règne vienne, nous lui exprimons non seulement notre bonne volonté, mais nous lui disons aussi, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Sans doute est-ce là même une fonction essentielle de la prière. Prier, c'est avant tout se mettre en contact, en communion avec Dieu, et bénéficier de sa puissance créatrice qui peut nous transfigurer et nous relever. Le royaume ne peut venir progresser et avancer que dans la mesure où je suis moi-même en union, en communion, en synthèse, en synergie avec Dieu. Et c'est comme cela que les choses peuvent se faire. Cette fois-ci, c'est en français, c'est la communauté un peu dissidente, dite Saint-Irénée, à Paris, qui célèbre en français, et non pas en russe ou en grec. Alors, nous sommes toujours avec Louis Pernaud pour dans Bible et théologie, pour ce parcours à travers notre Père, et nous arrivons à « Que ta volonté soit faite ». Ça aussi, ça semble tout simple, et pourtant, c'est relativement complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va demander à Dieu qu'il fasse sa volonté? Ça semble assez évident.
Dieu fait ce qu'il veut. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Alors là, c'est toujours pareil. On peut l'entendre aussi de pas mal de façons. Alors, certains chrétiens disent que Dieu est prêt à faire sa volonté, mais il faut encore que nous l'acceptions, c'est-à-dire que nous voulions bien qu'il le fasse.
Vous savez que, personne n'ignore, je ne le cache pas, que j'appartiens à l'Église luthérienne et que j'ai été instruit avec le catéchisme du petit catéchisme de Luther. Et par exemple, pour que ton règne vienne, que nous venons de scruter, Luther donne comme explication « Le règne de Dieu s'établit sans le secours de nos prières, mais nous demandons qu'il s'établisse aussi parmi nous, en nous. Hein » Et je crois que
c'est beau, ça. Hein, c'est vrai,
bien,
oui.
Comme explication.
C'est vrai que c'est
et
intéressant.
La volonté, hein. C'est la même chose. Que la volonté de Dieu soit aussi accomplie.
C'est vrai que
par nous.
C'est assez beau, ça. Et c'est vrai qu'on peut dire que ces trois demandes, progressivement, nous font descendre du ciel vers la terre. Et on va arriver dans la terre après.
Et il nous engage.
Et voilà. Parce qu'au début, on dit que ton nom soit sanctifié. On est totalement en Dieu. La notion de règne de Dieu, de royaume de Dieu commence à nous toucher. Mais la volonté de Dieu, ça, c'est vraiment, ça nous concerne. Et donc, on est dans une vision qui se rapproche de nous. D'un Dieu au début totalement, je dirais presque autiste, c'est-à-dire qu'il est aux cieux, donc il n'est pas sur terre. Et progressivement, on va descendre jusqu'à la terre. Alors la volonté de Dieu, qu'elle s'accomplisse, alors oui, on peut dire effectivement qu'on supplie Dieu de faire ce qu'il veut. Je n'aime pas trop cette théologie-là, même si elle se défend. Je crois que de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut et qu'il n'a pas besoin de notre autorisation pour le faire. Alors la lecture la plus courante, et la plus tout aussi discutable à mon avis, c'est de dire que dans cette demande, nous voulons simplement accepter que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire renoncer à nos propres désirs.
Ah oui, c'est un peu advienne que pourra.
Inch'Allah. Que la volonté de Dieu soit faite. Alors ça a été très présent même dans la mentalité protestante, où les protestants des autres générations ne disaient jamais « je viendrai te voir dimanche », comme l'explique l'épître de Jacques, mais disent « si Dieu veut, je viendrai te voir dimanche ».
Dieu voulant.
Dieu voulant. Alors, il rajoutait entre parenthèses « dévé », c'est-à-dire « Dieu voulant ». Voilà. Et donc, « si Dieu veut, je viendrai te voir dimanche », ce qui est l'équivalent d'ailleurs du « Inch'Allah » de nos Arabes, hein, qui disent « si c'est la volonté de Dieu ». Donc, comme si Dieu avait une sorte de volonté qui devait s'accomplir, et que tout mon travail à moi consiste à accepter cette volonté de Dieu passivement.
Fataliste.
Une sorte de fatalité en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. J'ai beaucoup lutté contre cette image. Et en même temps, je reconnais qu'elle peut avoir un certain mérite, non pas dans l'idée calvinienne que Dieu gérerait tout et que tout ce qui se passe soit la volonté de Dieu et que moi je dois simplement accepter une sorte de volonté inéluctable qui s'impose, mais dans le sens que je renonce à mon propre désir. Et donc je dis, voilà, mon désir à moi n'est pas tout puissant. Ce n'est pas toujours ce que je veux qui arrive, et donc je veux me dessaisir de ma propre volonté pour accepter quelque chose qui ne dépend pas de moi. Ça, il peut y avoir une dimension théologique, enfin psychologique plutôt, assez juste. Mais néanmoins, je n'aime pas cette idée d'un Dieu qui imposerait tout ce qu'il veut. Et contrairement à Calvin, je ne crois pas que tout ce qui arrive sur Terre soit la volonté de Dieu. Mais là, c'est un choix théologique très personnel, hein. Je crois que Dieu ne peut vouloir que le bien, que la vie, et que s'il arrive du mal, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Ça veut dire que, d'une certaine manière, il n'a pas d'avance tout programmé, et il requiert notre collaboration.
Ça, c'est ma théologie à moi, mais je reconnais qu'on entre là dans des domaines discutables, et peut-être l'un des plus discutables de cette interprétation du Notre Père, hein. Certains considèrent au contraire que Dieu gère tout. C'était plus à la mode du temps de Calvin qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains ont quand même cette idée de laver Dieu de toute source de mal, en quelque sorte. Et l'idée de dire aujourd'hui que le mal, c'est par définition ce qui n'est pas la volonté de Dieu, est une idée de plus en plus courante, mais à laquelle moi je m'attache très fortement. Et je me souviens même en particulier dans des services funèbres. Une fois, j'ai enterré un jeune qui avait 20 ans, et avec l'accord des parents, j'avais commencé le service funèbre en disant « Dans notre liturgie, il est écrit qu'il faut commencer le service funèbre par ces mots. Dieu a rappelé à lui, Olivier, à l'âge de 21 ans. » Et j'ai dit « Je ne crois pas que Dieu ait voulu la mort d'Olivier à 21 ans. » Et donc ça, c'est ma théologie. C'est celle qu'aujourd'hui d'un certain nombre de gens, mais ce n'était pas celle de Calvin. Et donc aujourd'hui...
Oui, est-ce que je peux citer, vous rappeler, oui. Louis Pernod, Calvin, qui n'était pas de très bonne santé, quand il souffrait, il y a cette phrase qui est très belle en soi. « Seigneur, tu me piles, il me suffit que ce soit toi. » Voilà. Alors, c'est-à-dire, bon, bah, c'est la volonté de Dieu, je souffre, bah, tant pis, bon, c'est comme ça, mais c'est Dieu qui le veut. Bon, c'est pas votre théologie, c'est pas la mienne non plus, d'ailleurs, je le dis tout de suite.
Alors, donc, effectivement, du coup, cette idée que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu, même si c'était la foi de mes grands-parents, n'est pas la mienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vu encore des personnes âgées, effectivement, dire je m'en vais, je laisse ma maison de campagne sans surveillance, mais la volonté de Dieu s'accomplira. Donc, sous-entendu, s'il y a un voleur qui me cambriole, c'est que Dieu l'aura voulu. Je ne crois pas en cela. Et donc, dire à Dieu que ta volonté soit faite, je ne crois pas que ce soit une sorte de façon de me rendre totalement passif par rapport à une volonté qui doit s'accomplir malgré moi. Et au contraire, que, comme vous l'avez dit, dire que ta volonté soit faite, c'est dire, Seigneur, que je sois capable, moi, d'accomplir ce que tu attends de moi. C'est-à-dire, cette volonté s'accomplira si moi, je veux bien. Et donc, dans Notre Père, je demande à Dieu que je sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu pour y coopérer.
Oui, moi, j'ai lu que vous écriviez à un moment dans votre livre, ça signifie qu'il faut nous remplir de la volonté de Dieu pour qu'elle prenne la place de nos désirs égoïstes.
C'est bien ça.
C'est du Louis Pernod.
Ah ben, je ne savais pas avoir écrit quelque chose d'aussi beau. J'ai dû l'entendre dans une bonne prédication et le noter. Mais la preuve de cela, c'est la... Évidemment, quand on pense que ta volonté soit faite, on pense tout de suite à la prière de Jésus à Gethsémané.
Eh oui.
Quand Jésus dit « S'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et là, on a pour moi la preuve que ce que je dis est juste, parce que quand Jésus dit cela, ce n'est pas pour dire « Je subirai passivement le sort qui m'est réservé », mais c'est de dire « Aide-moi, Seigneur, à accepter cette mission et à ne pas renoncer à cela, parce que Jésus aurait pu, à ce moment-là, ne pas boire la coupe d'amertume. Il aurait pu renoncer, s'échapper, s'enfuir, dire qu'il revenait sur tout ce qu'il avait dit et qu'il faisait une totale allégeance aux Juifs à ce moment-là. Et donc, quand Jésus dit « Non pas ma volonté, mais la tienne », c'est bien qu'il demande à Dieu qu'il soit capable lui-même d'adhérer à la volonté de Dieu et de faire de la volonté de Dieu son propre projet pour qu'il rentre dans ce projet que Dieu avait pour lui. Donc voilà, dire à Dieu que ta volonté soit faite, c'est pour moi effectivement un engagement de la personne. Et du coup, quand on a dit tout à l'heure que ces trois demandes étaient des demandes spirituelles qui concernaient Dieu, c'est vrai que là, on a vraiment deux types de lectures possibles de ces trois demandes spirituelles et du Notre Père. Et dans les différents commentaires que j'ai pu lire, on trouve d'ailleurs les deux tendances. Une tendance qui considère que ces trois demandes sont vraiment des demandes à Dieu. Et on demande à Dieu qu'il sanctifie lui-même son nom. C'est-à-dire que Dieu devienne lui-même une réalité importante. Où on demande à Dieu qu'il fasse venir son royaume. Et on demande à Dieu qu'il accomplisse sa volonté. Et donc, des demandes qui seraient totalement adressées à Dieu pour que Dieu en soit l'acteur. Et l'autre tendance, qui est la mienne, je ne le cache pas, c'est de dire ces demandes prétendument célestes sont en fait des demandes qui nous concernent nous totalement. C'est-à-dire, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est que je sois capable de sanctifier le nom de Dieu pour le mettre à part. Quand on dit que ton règne vienne, c'est que je sois capable de te reconnaître pour roi et que je sois capable, moi, de me soumettre à ta volonté pour que tu sois mon roi et que je te serve et que ta volonté soit faite, c'est que je sois capable, moi, d'accomplir cette volonté, donc de la discerner et d'y adhérer. Et donc, c'est vrai que moi, j'entends ces trois demandes comme étant quelque chose qui m'engage. Mais en même temps, et vous avez bien fait de le rappeler, il ne faudrait pas non plus faire de ces demandes quelque chose qui voudrait dire que l'homme serait tout seul pour faire ce programme qui est quand même immense, hein, de sanctifier le nom de Dieu et de faire venir le règne, et que pour cela, nous avons besoin de Dieu. Donc il y a une synergie, la nécessité d'une relation, et c'est l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme qui pourront faire en sorte que le royaume vienne. Parce que s'il n'y a que le roi qui s'impose, il n'y a pas un royaume. Un royaume, c'est un roi et des fidèles. Et donc, il faut qu'il y ait les deux. Et une volonté s'accomplira s'il y a des gens qui accomplissent cette volonté. Donc, je crois que la prière, c'est justement le lien entre Dieu et l'homme, et que c'est ce début du Notre Père, comme le fera le reste ensuite, vise à renforcer, à créer et à construire ce lien entre Dieu et l'homme pour qu'advienne une réalité nouvelle, qui est ce royaume de Dieu.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a une unité de ces trois premières demandes à chaque fois qui sont ce que disait vous êtes ouvrier avec Dieu. Hein,
c'est
une citation de Paul, ce que disait l'apôtre. Et ça veut dire engager à se pénétrer et à faire la volonté de Dieu, s'engager à faire avancer le royaume qui est déjà là, qui se développe, cette création qui continue, ce Dieu qui agit encore, et puis se pénétrer de sa volonté pour que sa volonté soit accomplie par nous et parmi nous. Donc c'est finalement servir Dieu. Hein, c'est tout le service qui rejoint, évidemment, vous dites le céleste et le terrestre, le modèle du lien entre le céleste et le terrestre, c'est la personne même du Christ. Dieu et homme, tout à la fois, à l'imitation duquel, vous parlez à un moment de l'imitation de Jésus-Christ, nous en parlerons peut-être, à l'imitation duquel nous essayons de vivre, et cette prière, donc, c'est l'engagement à la suite du Christ au service du Dieu, le Père.